et bienvenue sur la chaîne dédiée à la parentalité. Je suis Paola Pérez, j'accompagne et je soutiens des parents depuis plus de 10 ans. Et aujourd'hui, j'accueille Lysiane Faure pour un sujet traitant de la santé et des intestins. La santé vient de l'intestin, oui. Bonjour Lysiane.
Bonjour.
Donc, tu es sage-femme depuis plus de 40 ans.
Oui.
Et consultante en lactation IBCLC depuis plus de 15 ans.
Oui.
Et tu as présenté lors de la SMAM, la Semaine mondiale de l'allaitement maternel de 2014 à Tarbes.
Oui.
Ce sujet-là.
Ce sujet.
Qu'est-ce qui t'a amené à justement t'intéresser à ce sujet et à le proposer?
Donc, c'était le. J'avais vu un. Documentaire sur Arte. Ah, ça s'appelle Ces bactéries qui nous gouvernent. Voilà. Ces bactéries que je vous invite d'ailleurs à aller voir. C'est passionnant. Donc j'avais trouvé ça tellement extraordinaire. Je me suis dit, c'est révolutionnaire. Et puis après, je me suis acheté un livre aussi sur l'intestin. Et puis après, bah, sur Internet, tous les jours ou presque, je voyais des études sortir sur l'intestin. Et puis donc, quand on m'a invité. Pour la SMAM, on m'a dit qu'est-ce que tu vas faire comme sujet. Et comme le sujet, enfin le thème de la SMAM, c'était l'allaitement un atout pour l'avenir. Pour l'avenir, oui. Et je me suis dit que bah, ça tombait exactement, c'était exactement ça, l'allaitement un atout pour la vie par rapport au microbiote intestinal. Voilà, donc j'ai choisi ce sujet.
Alors le microbiote intestinal, qu'est-ce que c'est?
Alors, en 2011, les chercheurs ont découvert en fait que nous avions un nouvel organe dans notre corps qui pesait 1-2 kg, qui se trouvait dans notre côlon, et donc ils l'ont appelé le microbiote intestinal. Alors c'est l'ancien nom de la flore intestinale, et en fait il est composé de virus, de bactéries, de levures, de champignons qui vivent dans notre intestin. Et donc il y a 100 000 milliards de bactéries donc, qui appartiennent à 500 espèces pardon, et 90 familles.
Ah.
Et, oui. Et en fait ces bactéries représentent deux tiers du poids de nos selles. Chaque être humain a donc un microbiote qui lui est personnel et comme ses empreintes digitales, c'est dû à différents facteurs et qui sont différents pour chaque personne, bien sûr, parce que donc le bon état de ce microbiote dépend par ordre chronologique de notre naissance, enfin de notre mode de naissance, c'est-à-dire si on est né par voie basse ou par césarienne, parce que lorsque l'enfant est dans le ventre de sa mère, il est donc dans un milieu stérile. Dès que les membranes sont rompues, il y a des éléments de la flore vaginale de la mère qui peuvent rentrer dans la poche des os. Et puis après, lorsque l'enfant naît, par voie basse du moins, donc il passe par le vagin, donc il y a des éléments de la flore vaginale encore. Et puis après, il passe forcément à côté de l'anus. Donc là, il va être colonisé aussi par des éléments de la flore intestinale de sa mère. Alors que si l'enfant naît par césarienne, en fait, il va être colonisé par les éléments de la flore cutanée de sa mère, qui ne va pas l'aider à grand-chose. Et donc, la deuxième chose qui rentre en jeu, après le mode de naissance, c'est l'allaitement. On sait depuis longtemps déjà que celles des enfants allaités et celles des enfants non allaités ne sont pas les mêmes. Donc le microbiote, en fait, il améliore la nutrition et le métabolisme de l'organisme. Et alors, en fait, oui, il dialogue sans cesse avec nos tissus, parce qu'en fait, on s'est aperçu, recherche encore extraordinaire, que les bactéries, elles synthétisaient des substances qui ressemblent aux neurotransmetteurs que notre cerveau utilise pour dialoguer avec ses différentes parties. Donc notre intestin, il peut dialoguer avec les différentes parties de notre corps. Je trouve ça...
C'est vrai, c'est magique.
C'est extraordinaire, hein, ouais. Mais c'est pour ça, quand on lit aussi le livre Intestin, deuxième cerveau, on a même des neurones dans la paroi intestinale, donc c'est extraordinaire. Hein. Et donc les différentes familles bactériennes, elles coexistent entre elles, et donc elles empêchent les autres bactéries de s'implanter. Voilà. et donc participent au bon fonctionnement intestinal et à la bonne santé de leur hôte.
Est-ce que tu connais un petit, enfin, est-ce que tu peux nous dire les différents rôles du biote justement sur la santé, la prévention?
Oui, alors bon, d'abord son rôle, il participe évidemment à la digestion des fibres alimentaires. Donc, il induit la production d'anticorps et il occupe le terrain. Donc, il empêche les autres bactéries ou virus ou parasites de s'implanter. Il participe à la synthèse de certaines vitamines, comme la vitamine K anti-hémorragique, de certaines hormones, notamment les hormones sexuelles. Il sert à maturer l'épithélium intestinal, il sert à fabriquer des vaisseaux, et il sert aussi à développer le système immunitaire, car on s'est aperçu que si on élevait des souris dans un milieu stérile, leur système immunitaire ne se développait pas complètement. Donc il a vraiment un rôle très très important. Et je cite une phrase du professeur Guy Goroshov, qui est professeur d'immunologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, et qui dit: toute dérégulation de cette flore peut favoriser des maladies allergiques, inflammatoires, infectieuses, auto-immunes, voire certains cancers. Donc voilà, c'est ce dont je vais vous parler maintenant.
Effectivement, il y a un rôle très important.
Ouais.
Sur la prévention.
Sur les maladies de civilisation. On leur donne ce nom parce que c'est des maladies qu'on a vues se développer vraiment de façon importante au milieu du XXe siècle. Et donc elles sont dues à notre mode de vie au XXe siècle. Donc on les a regroupées sous le terme générique de maladies de civilisation. Alors pourquoi maladies de civilisation? Alors on mange trop et mal. Donc on est carencé en éléments essentiels, on vit trop vite, évidemment, on est stressé, on ne fait plus tellement d'activité physique, on boit, on fume, et puis il y a la pollution, évidemment, et puis tous les perturbateurs endocriniens, etc., etc. Et on est dans une insécurité professionnelle et sociale, et voilà. Donc, tout ça a fait que ces maladies se sont développées, ont progressé de façon très importante. Alors ces maladies, dont je vais vous les citer, il y a les maladies cardiovasculaires. Après, il y a les maladies du métabolisme. Alors là, bon, c'est les diabètes de type 2 et l'obésité. Il y a donc les maladies auto-immunes. Les maladies auto-immunes, par exemple, c'est la sclérose en plaques, le diabète de type 1. Alors, le type 1, c'est le diabète insulino-dépendant, et l'autre, c'est l'autre. Le lupus, la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite ankylosante, la maladie de Crohn, etc., etc. Les allergies, les maladies dégénératives, ça, c'est une maladie vraiment, enfin, dont on entend parler de plus en plus maintenant, les myopathies. La maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, de Creutzfeldt-Jakob, les cancers. Voilà, et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait un lien entre ces maladies et une mauvaise qualité du microbiote.
Je pense aussi qu'il y a des liens avec tout ce qui est dépression.
Oui. Oui, oui, il y a une étude en ce moment à l'université de Louvain en Belgique où ils font une étude sur la dépression et le microbiote. Il y a des études un peu partout dans le monde, justement, c'est un sujet très, très porteur en ce moment et on découvre presque chaque semaine il y a des articles qui paraissent. Là-dessus, sur la dépression, et puis aussi même simplement l'état mental, l'état du patient, oui. Puisque par exemple, on s'est aperçu que si on prenait des rats qui étaient agressifs et des rats qui étaient cool, et si on faisait manger aux rats cool des crottes des rats agressifs, c'est-à-dire le microbiote des rats agressifs, et bien les rats cool devenaient agressifs. Donc alors on se dit, alors, peut-être une ouverture dans la psychiatrie aussi, hein, l'obésité aussi, hein, si on a suralimenté des rats pour qu'ils deviennent obèses, et après on a fait manger leurs crottes à des rats qui étaient minces, et les rats minces sont devenus obèses. Donc ça aussi c'est une grande ouverture, parce qu'on se dit, l'obésité aussi, Mais alors justement, qu'est-ce qu'on peut faire pour se changer son microbiote? Mais en fait, on fait des greffes de microbiote. Alors bon, c'est là que certains patients peuvent peut-être avoir
des réticences.
Des réticences, parce qu'en fait, ça s'appelle une greffe microbienne fécale. Et donc, on prend à peu près, des selles d'un patient dont on a analysé le microbiote qui est sain. On mélange à 1 ml à 1 litre d'eau, on mixe. Et puis, par coloscopie, on le réinjecte chez le patient malade, quoi. Et donc, l'avantage aussi, c'est qu'il n'y a pas besoin de compatibilité donneur-receveur. C'est forcément compatible. Donc ça, c'est très intéressant. Donc, elle est bien sûr utilisée. Enfin, au départ, elle a surtout été utilisée pour soigner toutes les maladies digestives. Mm-hmm. Ça paraît évident. La maladie de Crohn, la maladie cœliaque, la rectocolite hémorragique, etc. Et aussi une maladie qui s'appelle la rectocolite pseudo-membraneuse, qui est due à une bactérie qui s'appelle le Clostridium difficile, qui touche surtout les personnes âgées qui ont été traitées par des antibiotiques, donc qui ont perdu toute leur flore. Cette bactérie arrive et elle envahit tout. Et vraiment, c'est très, ça manifeste par des diarrhées aiguës, des hydratations, des douleurs abdominales, et les gens peuvent mourir évidemment. Hein. Et le problème, c'est que pour tuer cette bactérie, il faut donner quoi? Des antibiotiques. Oui, donc c'est un cercle vicieux, quoi. Donc aux USA, par exemple, on en fait 500 000 par an. Et les médecins disent que ça permet la récupération complète de la fonction intestinale chez 90% des patients, par exemple. Donc c'est
donc, oui, un bon taux de réussite.
Ouais. En Europe, elle est recommandée par la directive européenne de traitement. Bon, en France, on n'en fait pas tellement, à mon avis. Et en Australie, il y a un docteur depuis 2013 qui a déjà guéri 2500 patients. Et il dit que c'est efficace 9 fois sur 10 sur le Clostridium difficile. Il l'a même élargi en fait au syndrome du côlon irritable, c'est aussi un autre trouble digestif du même genre. Et il l'a élargi aussi à la rectocolite hémorragique et à la maladie de Crohn aussi. Et donc il a réussi à guérir patients, et même d'autres patients qui étaient atteints d'un purpura thrombopénique, une maladie auto-immune.
D'accord.
Donc en France, on y vient. Par exemple, c'est expérimenté en ce moment à l'hôpital Saint-Antoine à Paris sur la maladie de Crohn. Bon, ils attendent les résultats dans les 2 ans, alors comme c'était l'année dernière, donc ça va être dans un an. Hein. Oui, donc bon, alors sur les maladies intestinales, on se dit, bon, ça paraît évident peut-être que le fait de changer la flore, ça soigne la maladie intestinale, mais donc on a vu tout à l'heure qu'il n'y avait pas que la maladie intestinale, puisque on va expérimenter aussi pour soigner le diabète de type 2, parce qu'on s'est aperçu qu'en fait il y avait 60 000 gènes du microbiote qui seraient associés à la présence de diabète de type 2. On va aussi expérimenter pour les inflammations du foie, l'asthme, la polyarthrite rhumatoïde, la dépression, je vous en ai parlé, les maladies cardiovasculaires aussi.
D'accord.
Alors en ce moment, par exemple, à l'INSERM, les chercheurs avec l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, ils étudient les liens entre le microbiote et la sclérose en plaques.
Donc, beaucoup d'études qui sont menées et des résultats qui vont venir et qui seront très intéressants sur le rôle de...
Oui, parce que là, c'est pareil, les découvertes sont permanentes, parce que bon, c'est vrai que ça peut guérir, il y a tellement de choses et c'est tellement intéressant, mais c'est aussi parce que les techniques d'analyse sont aussi améliorées, en particulier les techniques qui s'appellent la métagénomique, pour étudier le génome bactérien. Enfin, ça permet de faire des choses évidemment qui n'étaient pas possibles avant.
D'accord.
Et on peut quand même faire de la prévention par rapport aux antibiotiques, par exemple. On s'aperçoit aussi que les traitements par antibiotiques peuvent être très dangereux, bien sûr, pour le microbiote, parce qu'en fait, ils vont tuer les bactéries, donc les bactéries vont mourir et se reconstituer, mais
avec un
pas de façon tout à fait identique. On a étudié en particulier la ciprofloxacine. On a vu qu'après 3-4 jours de traitement, il y avait vraiment une perte de la diversité bactérienne. Il y a aussi d'autres médicaments qu'on a étudiés par rapport à la qualité du microbiote. C'est les inhibiteurs de la pompe à protons. Donc, c'est des médicaments qu'on donne pour réduire l'acidité gastrique. Et on s'est aperçu que, bon, par exemple, on peut lire sur la notice de l'ésoméprazole, connu aussi sous le nom de Inexium. Donc, ils mettent tous les effets indésirables. Alors, il y a 1 sur 10 000, 1 sur 1000, 1 sur 100. Et quand on arrive à effet indésirable assez fréquent, puisque c'est 1 sur 10,
oui, effectivement, c'est fréquent.
On voit que donc il y a des vomissements, des diarrhées, des douleurs abdominales, des flatulences et des maux de tête. Donc, faudrait faire attention de donner à bon escient, parce que moi, je vois dans mon entourage, quand les bébés ont 2-3 régurgitations, on dit « Oh, bah, peut-être qu'il a un reflux ». Peut-être, hein, on ne sait pas. Alors, on va voir, on va donner de l'Inexium. Bon, comme ça, on a bousillé la flore intestinale. Quoi.
Donc, effectivement, les antibiotiques ont de fait un impact vraiment important sur l'équilibre.
Certains plus que d'autres. Donc, c'est comme tout, comme dit la Sécurité sociale, l'antibiotique, c'est pas automatique. On ne peut pas vraiment les donner à bon escient, de même que les inhibiteurs de la pompe à proton, on ne peut vraiment les donner que si on est sûr que l'enfant a un reflux ou une chose qui nécessite vraiment ce médicament-là.
D'accord. Donc là, on a vu effectivement le rôle des antibiotiques, le rôle du mode d'accouchement pour la naissance, pour le biote. Et j'aimerais que tu nous parles plus spécifiquement aussi de l'allaitement maternel et de son rôle dans cette prévention, dans cette mise en place de biote.
Exactement. Alors donc là, je vais parler des prébiotiques qui se trouvent dans le lait maternel. Donc les prébiotiques, ce sont des aliments qu'on ingère qui résistent à l'acidité gastrique et aux enzymes digestives, et donc qui atteignent le côlon, où là, donc, ils vont stimuler de façon sélective la croissance et l'activité de la flore intestinale, donc ce qui peut avoir des effets positifs sur le bien-être de leur hôte. Donc, les deux prébiotiques dominants du lait maternel, ce sont la lactoférine et les oligosaccharides. Alors, la découverte des oligos, saccharides est une chose passionnante. On voit que les chercheurs n'ont pas lâché le morceau depuis un siècle, quoi. C'est vraiment extraordinaire, parce que aux États-Unis, à la fin du 19e siècle, donc, on s'est aperçu qu'il y avait 30% des nouveau-nés qui mouraient dans leur première année, et souvent de diarrhée. Mais les pédiatres de l'époque s'étaient aperçus aussi que les enfants qui étaient allaités survivaient et avaient beaucoup moins de diarrhées et d'autres maladies infectieuses. Donc ils se sont dit, logiquement, il y a quelque chose, on dirait qu'il y a quelque chose dans lait maternel qui protège les enfants. Et donc ils ont commencé en 1900, à faire des recherches, donc des pédiatres et des microbiologistes américains, autrichiens. Donc ils avaient mis en évidence la différence de composition, mais ça j'en ai parlé, la différence de composition des selles des enfants allaités et non allaités, puisqu'en fait dans les selles des enfants allaités, il n'y a que des bonnes bactéries, c'est-à-dire des bifidobactéries et des lactobacilles. Alors que dans les selles des bébés non allaités, donc il y avait des coliformes, des entérocoques, des germes fécaux, tout ça, enfin bon, des bactéries pas bonnes, quoi. Donc, à la suite de ça, il y a d'autres études qui ont été menées par des biochimistes, et en fait, on en a trouvé, en 1954 déjà quand même, ils ont trouvé qu'il y avait un sucre. Ils se sont dit qu'il y a un sucre différent, et on a l'impression que ce sucre-là est important, mais bon, la technologie n'était pas encore assez développé, donc il a fallu attendre qu'il y ait d'autres appareils plus perfectionnés, donc pour réussir à isoler les oligosaccharides. En parallèle, il y avait d'autres chercheurs qui ont trouvé dans le lactosérum du lait maternel un facteur qui favorisait la croissance du lactobacillus bifidus. On a changé de nom aussi, maintenant celui-là on l'appelle le bifidobactérium. Alors, on change de nom tout le temps, on a du mal à s'y retrouver. Hein. Donc il l'avait appelé le facteur bifidus. Et sa structure n'était pas connue. Mais en croisant avec les résultats des autres chercheurs, en fait ils se sont aperçus que le facteur bifidus, il était composé d'oligosaccharides. Alors, les oligosaccharides, ce sont donc des chaînes de sucre. Des chaînes de sucre qui se promènent donc dans l'intestin comme des sirènes. Et en fait, c'est le quatrième constituant du lait humain, après l'eau, le lactose et les lipides. Donc il y a 3 à 10 sucres donc, qui sont attachés comme ça. Il y en a à peu près 20 grammes par litre dans le colostrum, 5 à 14 grammes dans le lait mature, et il y en a plus dans le lait de femmes qui ont accouché prématurément que dans celui de femmes ayant accouché à terme. Comme on a vu que ce n'était pas un sucre alimentaire, mais un sucre qui servait à la protection et qu'il arrivait donc intact dans le côlon, eh bien forcément on le retrouve dans les selles, donc on en retrouve 90% dans les selles. Alors, le type de l'oligosaccharide qu'on trouve dans le lait maternel, il est déterminé génétiquement aussi, puisque nous n'avons pas les mêmes oligosaccharides que les bovins, par exemple, car d'ailleurs, ils n'en ont pratiquement pas d'oligosaccharides, de même que ce ne sont pas les mêmes oligosaccharides que les oligosaccharides végétaux. Ce qu'on rajoute, en ce moment, on en rajoute un petit peu, les fabricants rajoutent un petit peu dans les laits industriels, ce sont donc des oligosaccharides qui proviennent des végétaux, chicorée, topinambour et betterave. Et donc le plus abondant qui a été isolé dans le lait maternel, il l'appelle le 2FL, c'est 2-fucosyl lactose. Donc en ce moment, aux États-Unis, dans l'Illinois, il y a un laboratoire qui l'a synthétisé. Mais donc pour l'instant, 1 mg c'est 100$, donc c'est pas possible. Donc ils essaient de le synthétiser à bon marché, parce que ce serait très important qu'ils arrivent vraiment à en faire. Parce que d'abord ils en rajouteraient dans les préparations pour le nourrisson. Mais aussi,
mieux les vendre.
Oui, bien sûr. Mais aussi, ils rajouteraient dans la nourriture des soldats qui sont en exercice dans les pays où il y a des maladies diarrhéiques. Donc ce serait la prévention. Et surtout, en amont, dans la chaîne alimentaire, on pourra en donner aux animaux, c'est-à-dire le bétail et les volailles, car ce sont eux qui ont une bactérie en particulier qui s'appelle le campylobactère et qui est responsable d'infections intestinales et qui est donc dans les intestins de ces animaux-là. Donc si on leur en donnait, ça permettrait d'agir en amont. Donc les oligosaccharides, ils acidifient le tube, le côlon, quoi. Et donc ainsi, ils stimulent la colonisation digestive par les bifidobactéries, ce qui empêche les autres bactéries donc de s'installer. Et renforce la barrière intestinale et renforce le système immunitaire intestinal.
Donc ils ont plusieurs
oui, rôles. Oui, bah comme bien souvent mais souvent ils ont un rôle alimentaire aussi, oui. En plus de leur rôle anti-infectieux, etc. Alors celui-là, il n'a pas du tout de rôle alimentaire, hein. C'est juste anti-infectieux. Bah, il a un rôle par exemple sur la vessie, puisqu'il tapisse la muqueuse vésicale, donc empêchant ainsi les infections urinaires. Il agit comme un leurre, donc au niveau, je viens de dire, vésical, mais aussi intestinal et respiratoire aussi. Hein.
Ah, respiratoire, oui.
Il y a un exemple qui est très frappant, c'est le VIH. Donc, on s'était étonné aussi que malgré une concentration élevée du VIH dans le lait de femmes infectées, que la transmission soit faible. Et on s'était demandé d'où venait cet effet protecteur du lait. Donc il y a une équipe de l'université de San Diego qui a étudié des femmes infectées en Zambie et leurs bébés. Et ils ont constaté que plus les laits des mères étaient riches en oligosaccharides, et puis plus les bébés allaités étaient protégés contre le virus.
Ils ont su dire pourquoi, justement ?
Oui, bah justement, c'est toujours parce qu'il agit comme alors le virus du sida, donc dans les intestins. Il se fixe sur les sucres qui sont sur la muqueuse intestinale et en fait c'est une des portes d'entrée. Alors justement, les oligosaccharides, eux, ils sont aussi sur la muqueuse intestinale.
Ils tapissent.
Oui, voilà. Et le virus du sida, en fait, quand il arrive, il se fixe sur les oligosaccharides et donc il est éliminé.
Parce que les oligosaccharides ne rentrent pas.
Bah non,
ne franchissent pas la barrière et sont éliminés
voilà.
De l'aisselle.
Donc c'est très
malin.
Alors le deuxième prébiotique, donc, c'est la lactoférine. La lactoférine, elle a des fonctions multiples et en particulier des propriétés anti-infectieuses parce qu'elle aide le fer à passer la barrière intestinale. On sait bien que le fer, quand on le prend par voie orale, il est très peu assimilé. En particulier, par exemple, quand on prend dans les laits industriels, il est assimilé à 6%. Donc, pour que le bébé ait une dose suffisante, il faut
en donner
beaucoup. Et donc, il reste dans le tube digestif. Et c'est un milieu de prolifération que la bactérie Escherichia coli aime beaucoup. Donc, ça lui permet de se développer. Alors que le fer qui est dans le lait, il n'y en a pas une quantité extraordinaire, mais comme elle se fixe sur la lactoférine, elle passe la barrière intestinale.
Et du coup, il n'y en a plus.
Et du coup, il n'y en a plus pour que le Escherichia coli donc, puisse se développer. Donc la lactoférine, elle renforce l'action des oligosaccharides pour prévenir les maladies bactériennes chez le nourrisson. Et donc, on a vu l'importance d'avoir une bonne flore intestinale pour sa santé tout au long de sa vie, et pas seulement au moment où on est allaité, mais jusqu'à un âge avancé, puisque la maladie d'Alzheimer, ça touche plutôt les personnes âgées que les personnes jeunes. Et donc à ce titre, le lait maternel, il intervient de manière fondamentale dans le type de flore qui va coloniser l'intestin du bébé. Quand on se rend compte de tout ça, on se dit vraiment que tout le monde devrait avoir une information claire et simple sur le sujet et sur l'importance de l'allaitement. Et parce qu'en fait, c'est un enjeu de santé publique majeur. Donc c'est dommage que les gens ne puissent pas faire un choix éclairé en ayant toutes les cartes en main.
Bah, j'espère qu'à travers cette vidéo,
voilà.
l'information puisse être véhiculée et que justement les parents, les futurs parents puissent être informés de l'importance.
Ce qui est important, je ne dis pas ça pour faire allaiter des mamans qui ne veulent pas allaiter, chacun fait le choix qu'il veut, mais c'est pour conforter les mamans qui allaitent dans l'importance du choix qu'elles ont fait. Parce que quand on entend certains médecins qui leur disent « Oh bon, de toute façon, allaiter, ça ne sert à rien, après 6 mois, votre lait, c'est que de l'eau, etc. etc. » Et bien, quand on leur explique tout ça, elles se disent « J'ai pas allaité pour rien. » Voilà. Je crois que c'est ça qui est important. C'est pas pour dire aux autres mamans allaitez parce que vous allez voir, il y a les oligosaccharides, parce que celles qui ne veulent pas allaiter, ça ne m'intéresse pas tellement de savoir qu'il y a des oligosaccharides dans un lait qu'elles ne vont pas donner. Mais c'est pour celles qui allaitent, pour qu'elles voient le travail extraordinaire qu'elles ont fait. Enfin, vraiment.
Et ça peut être aussi une information destinée aux professionnels de santé.
Ah ben ça c'est très bien, oui, bien
pour
sûr.
Pouvoir justement être informée et soutenir les mamans dans leur démarche. Donc, pour résumer, effectivement, le mode d'accouchement a son impact sur le biote. L'allaitement ou le non-allaitement a aussi son impact sur le biote. L'utilisation des antibiotiques, certains antibiotiques ont plus d'effets délétères sur le biote. Et puis après, il y a tout le reste dont on ne parle pas, mais de la diversification alimentaire, l'environnement, l'alimentation. Etc. Oui. Mais déjà, si on peut agir sur les tout débuts, c'est énorme. Eh bien, merci beaucoup, Lysiane, de ton intervention, de nous avoir partagé toutes ces connaissances et de nous l'avoir fait avec générosité.
Oui.
Je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne pour être informé des futures vidéos et interviews qui vont être mises en ligne. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview. Merci, au revoir.
Au revoir.